Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Où en suis-je dans ma préparation pour mon premier Gravelman dans pile un mois? Je vous dis ça tout de suite. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que pas d'invité, mais c'est un épisode solo. Et en fait, c'est l'épisode 13, diffusé le 13 avril à un mois pile de mon premier Gravelman qui sera le 13 mai. Voilà, comme ça, c'est le jour des 13. Voilà, alors on va faire un petit bilan où j'en suis dans ma préparation. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon vélo, qu'est-ce que j'ai fait dans ma préparation, sur moi, etc. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour être prêt? Alors, je vous le rappelle, en fait, l'objectif pour moi, déjà la première échéance, c'est le Gravelman Auvergne. Et en fait, je m'alignerai sur la trace 120 km, on va dire le half hein, Gravelman, la trace Gravel, mais en 120 km. Mon objectif, quand même, je ne l'oublie pas, c'est de faire le Gravelman en full, le 350 km. En full gravel, et ça pour moi ça sera plutôt Deauville, voilà, le Paris Deauville, tout début septembre, là juste avant la rentrée scolaire. C'est ça que je vise hein, pour le gros, on va dire hein, le celui que j'estime moi le vrai en fait hein, l'aventure telle qu'elle va se terminer. Alors pas pour le podcast peut-être, mais en tout cas le défi Gravelman pour moi c'est bien le 350 km. Là, on va dire qu'en fait, c'est une étape de préparation hein, pour vraiment me mettre dans le bain, pour découvrir un petit peu les conditions, pour voir comment tout ça se passe, etc. Et puis, en fait, bah, c'est pas très loin de la maison. Hein. Pour moi, c'est, on va dire, une petite heure, un petit peu plus, une petite heure de route. Bon, ça dépend si j'y vais en vélo ou si j'y vais par d'autres moyens de locomotion. Ça, d'ailleurs, ça fait partie des questions que je me pose. Mais en tout cas, le 13 mai, hein, pour moi, le 13 mai, c'est le Half Auvergne, on va dire. Je vais l'appeler le Half Auvergne, comme ça, hein, 120 km trace gravel. Et donc, je vais vous expliquer dans cet épisode, bah, finalement, ma préparation, où j'en suis maintenant, ce que je vais faire, et je vais répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé des questions par le biais d'Instagram. J'ai mis une petite boîte à questions sur mon compte @BertrandSoulier pour vous demander si vous avez des questions particulières sur cette préparation, sur cette aventure. Alors, où j'en suis déjà? Alors, bah en fait, j'ai décidé de commencer par vous parler un petit peu de l'évolution du vélo. Rappelez-vous, le 20 janvier, j'ai fait un premier épisode dans lequel j'allais chercher le vélo. Donc le vélo, je le rappelle, hein, c'est un Triban de chez Decathlon, un 520 subcompact, un gravel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements dessus? Techniquement, pas grand-chose. Vraiment, techniquement, pas grand-chose. Mais par contre, j'ai rajouté quelques petits éléments dessus, comme un capteur de cadence. Alors, je l'ai rajouté assez rapidement. J'ai acheté sur Amazon. Ça coûte pas très cher, une vingtaine d'euros. J'ai pris un Magen. Voilà. Hein, l'idée, c'était d'avoir en fait une idée de ma cadence pour voir un petit peu. Parce que, en fait, c'est l'un des conseils qu'on m'a donné de surveiller ma cadence. Et puis, on en a beaucoup parlé avec certains invités de l'hypervélocité. On a parlé de capacité à tourner les pédales, etc. Est-ce qu'il fallait surveiller? Est-ce qu'il faut pédaler plus ou moins vite, etc. Bon, bah, tout ça, maintenant, je surveille et ça me donne quelques indicateurs. Des indicateurs, notamment pour moi aussi, de progression, pour voir si je suis capable de tourner les jambes un peu plus vite, pour voir quel est l'impact sur mon cardio, sur les sensations que j'ai, etc. Bref, Voilà, ça c'était un premier achat. J'ai fait un autre achat quand même, hein, qui est un petit peu lié, c'est que au départ j'étais parti sur, j'ai commencé à acheter une fixation iPhone. Alors j'ai pris les quad lock, alors la coque quad lock et puis une fixation quad lock qui est bien solide pour mettre sur le guidon. Alors là vraiment ça tient vraiment bien et puis je m'étais dit bah dessus je vais mettre Komoot, je vais faire le guidage etc. Et puis je me suis quand même dit qu'au niveau batterie ça serait peut-être pas terrible. Donc j'ai fini par acheter en fait un compteur, voilà, avec le GPS dedans et tout. Avec la cartographie. D'ailleurs, j'ai eu une question à la fin hein, sur ce compteur. Donc, j'ai pris un Brighton 420, un Rider 420, voilà. Et je le dis, en plus, j'ai fait une bonne affaire. J'ai pris chez Amazon. Alors, le Magen, j'ai pris chez Amazon, hein, le capteur de cadence. Ça coûte une vingtaine d'euros. Là, j'ai fait une bonne affaire parce qu'en fait, il est en déstockage. Officiellement, il est rayé. Je ne sais pas où. Il manque un câble USB. Mais alors, les câbles USB, il y en a tellement dans la maison que franchement, c'est pas vraiment gênant. Et il est rayé à l'arrière et à l'avant. Je n'ai pas trouvé la rayure. Vraiment, j'ai pas trouvé la rayure. En plus, j'ai pu avoir un modèle sur lequel il y avait la ceinture, vous savez, pour le capteur de cardiaque. Alors, souvent, j'oublie de le mettre. Faut dire un petit peu, hein, c'est que j'ai tellement l'habitude de courir avec ma montre qui a la mesure de la fréquence cardiaque au poignet. Je trouve ça tellement pratique que je pense que j'ai oublié à peu près 8 fois sur 10 de mettre la fréquence cardiaque, la ceinture cardiaque thoracique avec celle qui est livrée avec le GPS. Bon, c'est pas très grave, hein, voilà, je vais essayer de faire un peu plus attention pour avoir un petit peu la vision un petit peu des choses, mais ça me perturbe pas plus que ça en fait. Ça me perturbe pas plus que ça. Et puis des fois en fait je m'habille et puis je me rends compte au moment de partir, j'ai oublié de la mettre, il faut que je renlève tout, etc. Bref, ça c'est le problème aussi je trouve avec les pantalons de vélo, avec les shorts de vélo, et ceux qui ont des bretelles, s'il faut tout enlever pour remettre ça et tout, enfin voilà, c'est pas très pratique. Et donc des fois je suis un peu flemmard là-dessus. Donc voilà, en tout cas je me suis équipé de ça et il y a une question à la fin dont je vous en reparlerai un petit peu après. J'ai aussi posé un petit peu les bases de l'équipement pour amener en fait diverses affaires avec moi, notamment sur ce Gravelman. Alors j'avais commencé par prendre une sacoche sous la selle dans laquelle j'ai glissé dedans rustine, chambre à air, des monte-pneus, capsule de gaz pour en cas de crevaison. Ça, c'était l'essentiel. Et puis, j'ai rajouté aussi dessus une sacoche de cadre que là aussi j'ai prise sur Amazon. Je vous mettrai toutes les références sur mon blog, hein, bertrandsoulier.com, avec dans l'article qui va avec cet épisode, hein, tout simplement, dans lequel je vous expliquerai ça. Donc, j'ai pris en fait une sacoche. C'est une sacoche, alors c'est pas une top tube, celle qui se met au-dessus du tube, elle se met en dessous du tube, hein, elle se met vraiment dans le cadre. Et j'ai pas pris une qui faisait tout le cadre complet, j'ai pris en fait une, on va dire une demi, hein, ça doit faire 5,5 litres, je crois à peu près, avec des petites poches, etc., avec des petits compartiments à l'intérieur. Je la trouve jolie, voilà, je la trouve jolie, ça m'a coûté une quarantaine d'euros cette histoire, peut-être un petit peu plus cher. Et dedans, j'ai pu y mettre, l'autre jour j'ai mis des gaufres de pommes de terre, j'ai pu mettre un bout de quiche, je peux mettre aussi une petite pompe, j'ai pu mettre un peu de matériel, enfin voilà, des petits trucs comme ça dedans. Pour l'instant, je mets comme ça. Alors, est-ce que ça va suffire pour le Gravelman? Ça, franchement, à ce stade, je n'en sais rien du tout. Il faut que je regarde le matériel obligatoire, il faut que je regarde ce qui rentre, il faut que je fasse des tests. Il y a des questions, notamment, qui vont se poser avec l'histoire de prendre une veste. Est-ce qu'il faut prendre un petit truc rechange en plus, etc. Sachant que, c'est au mois de mai quand même. Alors, au mois de mai, il peut faire très beau, comme il peut faire un peu frais, surtout que c'est en altitude, c'est de la montagne, hein. L'Auvergne, c'est peut-être pas les très hautes montagnes des Alpes, mais ça reste quand même de la montagne, donc faut prendre une veste, etc. Bref, une question de savoir aussi s'il faut prendre une frontale, même si les jours sont longs, si ça dure un peu plus, s'il y a de la casse, etc. Bref, voilà, donc il faut que je regarde un petit peu ce qui rentre à l'intérieur de cette sacoche. J'avais pas l'intention de prendre trop de trucs, hein, notamment mettre un truc à l'arrière de la selle. Pour faire le Half Gravelman, j'en ai pas l'intention. Pour faire le Gravelman complet, ça serait notre question. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si je dois mettre un petit truc dans le guidon, sur le guidon là devant, dans lequel je pourrais mettre divers équipements, des trucs faciles à attraper, etc. Parce qu'il faut rentrer aussi une batterie, il va falloir rentrer un petit peu à manger, enfin tout un tas de choses comme ça, de l'argent et tout. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qui rentre pour des petits déplacements et tout, pour une sortie d'une heure ou deux heures, ça va très bien. Au-dessus, pour l'instant, je n'en sais rien. J'ai mis aussi deux porte-bidons, hein, voilà, deux porte-bidons, hein, c'est toujours pratique. J'ai pas fait un investissement énorme, hein, sur les porte-bidons, j'ai pris ça chez Decathlon, ça m'a pas coûté très cher. Je les ai pris jaunes, je trouve qu'ils sont jolis, voilà, et tout. Et les bidons, j'en ai plein à la maison, donc j'ai pris dans les bidons que j'avais, j'en ai en pagaille. j'ai acheté une petite pompe, une toute petite pompe. Bah oui, parce que ça fait partie aussi du matériel obligatoire. J'étais parti avec les capsules de gaz hein, pour les sorties classiques, mais j'ai pris une petite pompe toute fine, toute légère, qui passe d'ailleurs à l'intérieur de cette fameuse sacoche. Là aussi, hein, c'est vraiment dans la prévision de la course elle-même et ça fait partie du matériel obligatoire, tout comme il faut une chambre à air, hein, même deux chambres à air, je crois. Donc ça, c'est fait. J'ai pris aussi un petit kit de réparation de chaîne. Hein, s'il y a un maillon qui se casse, eh ben, j'ai de quoi le remplacer. J'ai acheté de l'huile, etc. pour entretenir le vélo à la maison. Des rustines, parce que j'ai fait une crevaison, ça je voulais vous raconter. Une crevaison que j'ai réparée tant bien que mal avec une rustine qui s'est décollée. J'ai remis une autre rustine et puis finalement, ça n'a pas tenu très bien. Et puis il y a eu une trou, etc. Donc j'ai fini par changer la chambre. Voilà, mais ça je vous raconterai ça un petit peu plus tard. De quoi j'ai investi aussi? Bah, tiens, un pack de cartes Komoot. Sur le Puy-de-Dôme. En fait, au début, je pouvais aller assez tranquillement. Et puis, quand j'ai commencé à explorer un petit peu les routes, notamment pour partir un petit peu vers le nord, un petit peu vers le sud, je me suis retrouvé dans des zones où je n'avais plus de cartographie Komoot. Donc, j'ai pris un pack de cartes Puy-de-Dôme. Et puis, bientôt, je prendrai le pack Allier quand je vais étendre un petit peu ma zone d'action. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'en ai besoin parce que le GPS que j'ai pris, le compteur GPS de Brighton est compatible Komoot, mais quand on fait un tracé, bien sûr, il faut que sur Komoot on puisse avoir le parcours, etc., pour ensuite l'envoyer sur la carte, sur le GPS, pour pouvoir suivre ce qu'on fait, hein, voilà, la route, etc. Donc j'avais besoin de ce pack hein, pour pouvoir prévoir un petit peu les trajets, etc., et pour pouvoir faire ma trace, en tout cas pour prévoir mes premières traces. Bon, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus? Ben, il y a un truc sur lequel je bloque pour l'instant, et vous avez ça trouvé assez bête, c'est que je n'ai pas trouvé de fixation pour mettre ma GoPro. Alors, j'ai une vieille GoPro carrée, là, vous savez, les petites carrées que je trouve adorables, que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses avec. J'ai plein de fixations, mais alors plein de fixations. La fixation que j'avais sur mon fixie, eh ben, le cintre était plus fin, vraiment, le guidon était beaucoup plus fin. Et ben là, ça passe pas, donc j'ai trouvé d'autres fixations. J'ai fini par trouver dans mes petites affaires une fixation qui était assez large. Mais en fait, le sens va pas, donc il faut que j'arrive à trouver des vis pour tourner, pour pouvoir la fixer dans le bon sens. C'est curieux quand même. Moi qui d'habitude, c'est le premier truc que j'arrivais à fixer, j'ai une boîte là à côté de moi dans laquelle j'ai plein de fixations, j'ai plein de trucs standard, pas standard, officiel, pas officiel, etc. Et ben j'en ai aucun qui me permet de fixer ma GoPro sur le vélo. Donc pour l'instant, je n'ai fait aucune vidéo embarquée sur à part une fois où j'ai tenu le vélo, le téléphone à la main, mais je n'ai aucune vidéo embarquée où on voit la route, on voit les chemins par lesquels je roule. Tout simplement parce que pour l'instant, ma GoPro, je ne suis pas capable de la fixer dessus. Et je trouve ça très couillon, mais c'est comme ça. Ensuite, dans le feuilleton toujours de matériel, il y a quand même un truc que je dois vous dire, c'est que j'ai fini par installer les pédales automatiques. Oui, la semaine dernière, j'ai installé les pédales automatiques. En fait, ce que s'est passé, c'est qu'après l'épisode avec Thomas Piednoir, où on a parlé des postures, etc., on avait parlé notamment du réglage par laser chez Tempo, magasin Clermont. Et ce que j'ai décidé de faire, en fait, j'ai dit, je vais installer mes pédales. Donc j'ai installé les pédales automatiques, ça c'est fait, j'ai fait une première sortie au coucher de soleil, donc ce jour-là je suis parti avec des gaufres de pommes de terre maison dans ma petite fameuse petite sacoche, je suis parti assez tard en fin de journée, j'ai regardé le soleil se coucher sur les volcans tout en mangeant ma petite gaufre, j'ai pas fait beaucoup de chemin, hein. J'ai fait une vingtaine de kilomètres, rentré, il commençait à faire noir un petit peu, j'ai pas pris de frontal d'ailleurs, et la petite lumière sur le vélo est trop faible, elle est vraiment trop faible, donc... Là, je vais regarder déjà, je vais faire des tests parce que j'ai des lumières que j'avais sur mon fixie qui avaient une grosse puissance pour rouler en ville. Et puis, je vais voir aussi si je peux fixer ma frontale sur mon casque. Et pour justement le Gravelman, alors peut-être pour le half, j'en ai peut-être moins besoin hein, à savoir. Mais pour le full, j'en aurais probablement plus besoin. Donc là, c'est des petits trucs qui sont en train de se régler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après, donc j'ai fait cette première sortie de jeudi. Le lendemain, je suis allé au fameux magasin Tempo à Clermont dans lequel j'ai fait régler mes cales. Et en fait, un constat, c'est que moi, quand j'avais fixé mes cales sur les chaussures, j'avais fixé grosso modo, en fait, en plein milieu, hein, par rapport aux fixations, j'ai mis ça totalement au hasard. J'avais pas idée, en fait, hein, de réglage. Donc, la discussion avec Thomas Piednoir, justement, m'a permis de dire, bah tiens, ce serait bien de vérifier un petit peu comment faire. J'avais regardé un petit peu les mesures, comment faire, etc. Là, je suis allé à la boutique, ça m'a coûté 20 €. Alors lui, il faut me mettre le pied sur une machine pour trouver le bon réglage, etc. Après, il passe un laser. Après, il met des petits scotch sur la chaussure en mettant le trait où est-ce qu'il faut être placé. Et le truc qui est assez amusant, c'est que finalement, si ça était possible, il aurait fallu qu'on puisse avancer mes cales tout devant. Mais en fait, le réglage de la chaussure ne le permet pas. Les trous en fait, qui ont été prévus ne permettent pas de mettre... pour moi, la cale suffisamment vers l'avant par rapport, on va dire qu'il manque quelques millimètres, voilà. Mais par rapport au réglage que j'avais de départ, il y avait au moins un centimètre, hein, il n'y avait pas loin d'un centimètre d'écart entre là où moi je l'avais mis et où j'avais commencé à rouler avec, et là, en fait, où c'est idéal pour moi par rapport à mon pied, comment il fonctionne, par rapport à mes appuis, etc. Donc ça, c'est un bon point déjà, parce que ça veut dire que j'ai mes pédales automatiques, j'ai pu les faire régler de la bonne manière, etc. Je me sens bien à l'aise avec. Zéro chute, vraiment, même si à un moment donné, j'ai failli oublier d'enlever le pied. Au dernier moment, je me suis rattrapé, mais pour l'instant, je suis à zéro chute. Donc, je suis assez content. Hein. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de sorties, j'en ai fait 3 avec. Hein. Donc, je suis vraiment pour l'instant sur le minimum du minimum. Et au début, j'arrivais même pas à clipser. Hein. Alors, même en le mettant très, très léger, parce que ça déclipse assez facilement, déjà, j'arrivais pas à clipser. Maintenant, j'arrive à clipser assez facilement. J'arrive à déclipser sans me casser la gueule. Voilà, je progresse. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Donc, je suis content. L'étape pédale automatique, elle est mise. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, mais t'en es où aussi de ce fameux débat sur les pneus, est-ce que j'ai des pneus, est-ce que je passe en tubeless, est-ce que je reste en chambre, etc. Bon, j'ai une question qui a été posée à la fin, je vous répondrai à la fin, mais en tout cas, sachez que le débat n'est pas totalement tranché encore dans ma tête, mais je vous ai dit, j'ai fait une crevaison. Donc statistiquement, une crevaison pour l'instant, je sais pas encore, vraiment je sais pas encore, mais je vous dirai un petit peu où j'en suis dans ma tête sur cette réflexion-là. Maintenant, passons aux statistiques. Où j'en suis dans les statistiques, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis sur le plan purement de ce que j'ai roulé. Alors, depuis le 20 janvier, j'ai fait 860 km. Or, je pensais en faire un peu plus. J'ai pris un petit peu de retard. Là, je prends un petit peu de retard sur 2-3 semaines. Hein, je vous ai expliqué un petit peu entre un voyage à Paris, entre le vent, etc. Bon, voilà, j'ai fait mon petit 860 km, ce qui représente quand même 45h34 d'heures de selle et 46 sorties. Donc, ce qui veut faire, si on fait des moyennes, ça veut dire que grosso modo, j'ai beaucoup de sorties qui sont autour d'une heure, voilà, à peu près dans cette zone-là. J'ai des sorties qui ont été plus longues. Ma sortie la plus longue fait quand même fait 55 km. Alors, fait quand même, ouais. Elle fait 55 km, sachant que le Half Gravelman, donc le 120 km, il faut en faire déjà plus du double. Et donc là, finalement, je ne suis pas arrivé à en faire déjà la moitié de la distance que je dois faire dans un mois. Donc là, ça commence à mettre un petit coup de pression en me disant j'espère quand même que la fin du mois d'avril hein, va être un petit peu plus productive, et je vous expliquerai après comment je peux compte m'y prendre. J'ai fait quand même 9 934 mètres de dénivelé positif, donc ça c'est cool. Une crevaison, ça je vous l'ai dit, sortie la plus longue, 55 km. J'ai bu à peu près, je crois, 10 cafés. J'ai mangé 8 cookies et un pain au chocolat aux amandes sur mon vélo. Que je suis allé, vous savez, c'est mes stratégies en fait d'aller boire un café. Alors souvent, c'est au même endroit, c'est le Willy Break hein, pour ceux qui sont à Clermont, aux bières et tout. C'est alors soit je le rejoins sur un marché, soit je le rejoins quand il vend devant, par exemple, le journal La Montagne, ou alors quand il est dans sa boutique. Donc selon les cas, ça me fait 20 km, des fois 30. J'ai pu allonger, hein. Il y a un endroit où il est à 9 km, j'y vais en 18. Voilà, il y a des petites variations comme ça, hein. C'est mon truc. Je prends un café, je mange un cookie, je ramène un petit cookie pour ma fille, hop, et je rentre à la maison. Ça peut me faire une sortie jusqu'à 40 km, hein, à peu près, en jouant un petit peu avec les chemins, en jouant un petit peu avec la route, etc. J'arrive un petit peu à allonger, ça me fait un petit défi. Et puis mon petit pain au chocolat aux amandes, en fait, c'est un jour, le jour de la sortie de 55 km, j'avais commencé à le repérer à la route qui pourrait m'amener boire un café à Vichy. Carrément, parce que là où j'ai mes habitudes quand j'ai des cours à Vichy. Et donc, j'ai fait la moitié du chemin, en fait, la moitié de la route. Et ça m'a arrêté à Maringue. Et à Maringue, j'ai vu une petite boulangerie. Ça m'a donné envie, je me suis arrêté. Et là, franchement, je garantis, je me suis bien régalé. Bon, maintenant, j'ai un point de passage, sachant que normalement, je dis bien, samedi, j'ai prévu, en tout cas, une sortie qui m'amènera de de Cournon actuellement où j'habite, à Vichy où je vais habiter, et je vais y aller en vélo. Voilà, ça sera un petit peu ma stratégie. Et donc là, ça devrait permettre de faire une sortie qui sera à peu près autour des plus longues, hein, entre 50 et 60 km. Avec des pauses, avec je vais le faire tranquillou, hein. Franchement, je vais le faire tranquillou. Je sais pas quelle est la météo qui sera annoncée, comment ça va se passer. Ils annoncent un petit peu de pluie. J'ai repéré un petit peu certaines traces, hein. J'ai vu qu'il y avait des petites variations. J'ai vu aussi que je pouvais faire des petits arrêts chez certaines personnes avec qui je discute sur Instagram. Donc voilà, on va jouer un petit peu comme ça avec le terrain, allonger un petit peu les distances. Et je vous expliquerai ensuite. J'ai deux stratégies pour vraiment me préparer sur le dernier mois, pour vraiment me préparer. Mais c'est vrai que en fait, ces statistiques, qu'est-ce qu'elles reflètent ? Elles reflètent surtout que bah, la première phase, c'est de m'habituer au vélo, prendre l'habitude de rouler régulièrement, faire 3-4 sorties par semaine, augmenter le temps de selle. Alors sur le mois dernier, ma distance moyenne sur les 4 semaines, c'est 89 km par semaine. J'aurais aimé être à 100, 120 en fait, hein. Grosso modo, il y a eu des semaines, j'étais à 100, 120. Il y a des semaines, j'étais beaucoup moins. Voilà, donc je suis un peu en retard. Mon temps moyen, c'est 5 heures de selle par semaine. J'aurais aimé être à 6 heures et grimper jusqu'à 8 heures là sur le dernier mois qui reste. Donc c'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini, il me reste un mois de préparation, mais je suis un petit peu en retard en fait par rapport à ça. Alors il y a eu des semaines où j'ai bien fait autour de 6h30 voire 7h de selle, presque un peu plus, et puis il y a des semaines où j'en ai fait beaucoup moins, et donc là bon bah voilà, j'ai pris un petit peu de retard. Et puis en moyenne je fais 1000 mètres de dénivelé positif par semaine, à peu près, c'est à peu près mon truc, sachant quand même que sur le Gravelman je crois que c'est 2000, hein, le jour du Gravelman Auvergne. Donc c'est à dire que dans une seule journée j'en ferai deux fois plus que ce que je fais en moyenne sur une semaine. Donc là aussi il faut un petit peu que je commence à faire un peu plus de dénivelé, que j'allonge un petit peu les trajets, etc. Ce qui se passe en fait, c'est que souvent je fais des autour de la maison, je prends des chemins où j'ai beaucoup de dénivelé mais pas beaucoup de route, et puis je fais des sorties qui font une heure, et donc finalement avec le dénivelé ça fait pas beaucoup de kilométrage, etc. Donc c'est tout cet ensemble là qu'il faut que j'augmente. Alors mes terrains de jeu vont un petit peu changer, vont un petit peu évoluer, donc ça va être un petit changement, ça va être moins pentu, il va y avoir plus de plats, mais je vais aussi aller chercher des bosses, pouvoir monter, descendre, etc. M'habituer notamment aussi à la descente, hein. Techniquement, je suis pas super à l'aise dans les descentes. Même les descentes sur route et tout, on en avait parlé avec Thomas Piednoir sur la position. C'est en fait une question de position des mains, de savoir où mettre les mains, comment freiner, etc. Je suis pas super à l'aise, hein, dessus. Je vais pas aller m'aligner sur une étape du tour où il y a des cols à monter et puis des grandes descentes à faire derrière, parce que pour l'instant, je suis pas en mesure, voilà, vraiment en mesure de m'éclater en descente. Ou alors plutôt, je suis en mesure de m'éclater au sens où j'oublie de freiner. Ou je freine pas au bon moment, etc. Donc c'est juste une question, et je pense que là, ça vient aussi d'une question de posture. Donc, il faut que je réécoute l'épisode qu'on a fait avec Thomas Piednoir. Je ne vais pas faire une étude posturale. Hein. Je n'ai pas le budget déjà pour faire une étude posturale. Et puis, sur ce truc-là, en fait, ça aurait été probablement cool de... Je pense qu'il y a une petite position du guidon, des cintres à bouger un petit peu pour que je sois plus à l'aise, un petit peu des poignées et tout. Donc là, c'est des petits réglages que je dois trouver, que je vais chercher. Et justement, sur le mois qui vient, c'est un petit peu l'objectif. Bon, dans tout ça aussi, il y a un truc que je dois dire, c'est que je continue à courir tous les jours. Hein. J'ai fait 625 jours de course quotidienne. Et en moyenne, je cours 40 à 70 km par semaine, hein, à peu près, dans mes moyennes. Je fais tous les défis pour gagner mon dossard pour le marathon des Jeux Olympiques, marathon pour tous. Donc, il y a plein de petits défis comme ça. J'ai fait un trail de 13 km, j'ai fait un semi-marathon officiel à Vichy aussi. Donc, dans l'ensemble, hein, ça veut dire que je cours 5 à 6 heures par semaine, voire un peu plus, et puis je roule 5 à 6 heures par semaine, voire un peu plus. Donc au plus, je crois que je suis monté à tour entre 13 et 14 heures de sport dans une seule semaine. Si on rajoute un petit peu la marche, etc., ça faisait 15 ou 16 heures. Donc voilà, j'ai un bon volume d'activité. C'est juste que maintenant, en fait, j'ai un volume d'activité vélo qui est insuffisant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je modifie. Et justement, c'est ce qui me permet de passer à la suite et de vous dire ce que je vais faire sur le dernier mois. Comment je vais préparer mon dernier mois, comment je vais m'appliquer, hein, sur la préparation, parce que ce mois finalement il doit me permettre d'arriver justement sur le départ, hein, le 13 mai, 8h, tac, départ du Chambon pour le Gravelman Auvergne, et être prêt et être en confiance pour être prêt. Alors Dans ma tête, hein, en fait, je suis persuadé que je vais le réussir. Je suis persuadé, c'est l'aventure, je vais le faire à mon rythme, on va voir comment ça se passe. Hein. Et, l'épisode avec Gwenoline avait aussi donné quelques éléments qui étaient intéressants, que ce soit Nathalie Bayon, Gami Pic m'ont aussi bien rassuré. Mais tout le monde, en fait, hein, si on prend tous les épisodes que j'ai eus avec des invités, tous m'ont assez bien rassuré sur l'histoire. Donc, je suis assez confiant sur mon histoire. C'est juste que je voudrais quand même un petit peu progresser sur certains points. Alors, déjà, ma stratégie, c'est quoi ? Alors, déjà, la stratégie purement vélo, on va dire. Purement vélo, c'est déjà d'être au minimum à 4 séances par semaine. Ça, c'est la certitude, parce que je veux augmenter le volume. Et j'ai un objectif, c'est l'objectif grand fondo, vous savez, sur Strava, faire une sortie 100 km. Bon, ça, j'ai envie, vraiment. Et puis, c'est un truc qui est rassurant, c'est un point de rassurance pour moi. Vraiment, hein, quand j'ai fait mon 24 heures en course à pied, j'avais un point de rassurance qui était de dire... Je dois courir, je veux faire au moins 100 km sur le 24 heures. Il faut que je arrive à faire au moins 100 km dans la semaine. Et ben là, c'est pareil. Hein, il y a 120 km dans une journée. Je veux au moins arriver à faire une sortie de 100 km pour me rassurer, sur me dire, je suis capable de faire 100. Ben le reste, en fait, c'est pas tant que ça, quoi. C'est pas comme passer de 55 à 120. C'est de dire, de 100 à 120, finalement, l'écart sera moins grand. Donc, pour l'instant, là, il faut que j'arrive à gratter ça. Voilà. Et le but du jeu, c'est déjà de faire 4 séances par semaine, d'augmenter le volume, faire cet objectif grand fondo. Et j'aimerais bien en faire au moins un déjà avant le premier Gravelman, le Gravelman Auvergne, donc mi-mai. Et puis après, j'ai des objectifs d'en faire d'autres. Mais là, après, je vous en parlerai quand ça sera enchaîné. Parce que déjà, j'ai mon plan pour ce qui va se passer après, en fait, pour préparer justement, pour enchaîner sur la préparation du Gravelman complet, du grand, du vrai, de celui que je veux vraiment faire. Bon, bref, c'est comme ça. Ensuite, sur le vélo, il y a un autre truc aussi, c'est que je dois ajuster un peu la position, je vous l'ai dit, entre un petit peu le réglage des positions des cocottes, des freins, etc. Enfin, régler des petits trucs. Je crois qu'il faudrait que je remesure un peu ma hauteur de selle, hein, peut-être pour ajuster la hauteur de selle, maintenant que mes cales de mes pédales sont bien ajustées, sont en bonne position. Je me demande s'il ne faut pas que j'ajuste un tout petit peu ma hauteur de selle. Un tout petit peu, je pense. Hein. Je ne suis pas si mal que ça, en fait. Hein. Je pense que c'est juste une question d'équilibre global, d'ajustement global de ma position. Donc ça, en fait, il faut que j'y regarde un petit peu. Ensuite, vraiment, il y a un truc que j'ai prévu de faire, c'est d'enchaîner deux sorties en 24 heures selon les conseils qu'a donné Camille Pic et donné Gwendoline. C'est-à-dire, comme on avait dit, c'est-à-dire de dire, par exemple, je pars, je fais une sortie le samedi soir et une le dimanche matin. Ça pourrait être comme ça. Et puis faire 60 ou 70 le samedi soir et puis 60-70 le dimanche matin. Ce qui ferait un total entre 120, 130, 140 km sur un délai de 24 heures hein, ou même pas de moins de 24 heures. Parce que si par exemple j'allais rouler, je sais pas, et puis tester un peu ce qui se passe en fin de journée, rouler en début, fin de journée, etc. pour la luminosité, tester même de ce que ça fait avec la frontale sur le casque. Et ben ça serait de dire tiens je vais rouler au coucher du soleil par exemple le samedi et rouler au lever du soleil le dimanche, ce qui permettrait en fait pratiquement dans 12 heures en fait de faire les 120 ou 130 km voire 140. Donc là ça serait pas mal déjà de les découper en deux morceaux, m'habituer après comme ça à récupérer, dormir, manger un petit peu et tout, puis repartir le lendemain et puis ensuite avoir aussi une sortie grand fondo. Voilà, c'est un petit peu mon plan, c'est comme ça que je prévois de faire ça. Donc je vais regarder un petit peu la météo, je vais regarder un petit peu les parcours, les trajets, un petit peu ce que je peux faire, comment je peux faire ça, comment je peux m'organiser là-dessus. Mais ça, c'est mon plan. Voilà, c'est mon petit plan pour arriver à déjà caser ce fonctionnement-là. Et on avait parlé hein, dans des épisodes précédents, justement, des stratégies pour arriver à le faire et pourquoi c'était un bon plan d'arriver à le faire et que c'était une bonne préparation. Ensuite, je l'ai dit, hein, je veux m'habituer à rouler en début, en fin de journée. Vous m'avez donné les conseils d'ailleurs en me disant, le fin de journée c'est sympa, rouler de nuit c'est différent et tout. C'est vrai. Alors rouler de nuit, je l'avais fait. Alors quand je roule en fixie, je roulais de nuit mais en ville. L'autre jour, j'ai roulé un petit peu sombre. Mais je me suis rendu compte que mon éclairage n'était pas top et c'était pas encore la nuit. Et donc, il faut que je m'entraîne aussi à rouler avec une luminosité qui soit variable. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que suivant la météo, il faut que je m'entraîne à rouler d'autres moments de la journée que le matin, que le soir, mais aussi rouler, par exemple, s'il se met à faire chaud. Et parce que le 13 mai, il peut faire chaud aussi, c'est rouler sur la journée, c'est-à-dire de faire une sortie longue, j'ai envie de dire, en temps, c'est-à-dire... Dire je vais pas juste rouler une heure ou deux heures le matin, mais c'est de rouler plus longtemps, déjà 3, 4, 5 heures, un jour, etc., mais pour ma sortie au grand fond d'eau, mais aussi me coltiner un petit peu de chaleur s'il se met à faire chaud, pouvoir rouler quand il fait chaud, tester les stratégies d'hydratation, etc. Ça, c'est vraiment le plan, c'est de tester différentes conditions. Alors, il y a des conditions que j'ai bien testées, hein. J'ai testé rouler sous la pluie, j'ai testé rouler dans le vent, j'ai roulé avec le vent de face, avec le vent de dos, vent de côté, la pluie de face, de côté, enfin, j'ai testé ça. Maintenant, je voudrais bien rouler avec du soleil. Voilà, tester ce que ça fait de le soleil, la chaleur, avoir plus soif, etc. J'en ai un peu marre, en fait, de rouler avec des gants, avec la veste de pluie. J'aimerais bien rouler, en fait, avec un truc plus léger. Voilà, soyons honnêtes. Moi, le printemps, j'adore ça. J'attends ça vraiment avec impatience. Je me suis déjà fait mes petits plans pour aller faire mes petits levers de soleil avec ma petite cafetière que je pourrais mettre dans mon truc et dans ma petite sacoche. Ça, c'est ce que je faisais en courant. Je vais aussi le faire en vélo, ça fait partie de mes petits plans, etc. Mais j'attends quand même que le temps se réchauffe. Ensuite, ça, c'était vraiment sur purement vélo. Vraiment la stratégie purement vélo. Il y a un truc que je vais faire, c'est du renforcement musculaire. Là, le renforcement musculaire, j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Et je me rends compte, en fait, que ça me manque un petit peu. Ça me manque en course à pied, ça me manque aussi en vélo. On en a parlé aussi avec Adeline, on en a parlé avec Thomas Piednoir, on en a parlé un petit peu aussi avec, je crois que c'était Camille qui avait parlé aussi du yoga. Donc, on a parlé de cette fameuse souplesse, etc. Et c'est vrai que, comme sur l'année dernière, en fait, je me suis quand même coltiné pendant une partie de l'année des douleurs sciatiques, hernies, tassements lombaires, etc. Et je sais que certains mouvements de yoga, chien tête en haut, chien tête en bas, dos rond, etc., le cobra, des choses comme ça. Alors là, vous pouvez écouter Kilomètre 42, j'ai fait un épisode notamment avec Greg, le yogi runner, où on avait parlé des positions, etc., notamment creuser le dos qui, pour moi, me fait beaucoup de bien sur quand j'ai des douleurs avec ma hernie. Donc il faut que je me renforce musculairement, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. D'ailleurs, hein, ça fait partie aussi d'un objectif qui est plus large. Ça, c'est un objectif de recomposition corporelle, hein, que je m'étais fixé. Vous savez, je le dis dans l'intro, hein, dans mon histoire, j'ai perdu 27 kilos, mais même presque 30, hein, parce que ces derniers temps, avec le volume de sport, je me suis bien affiné. Hein, j'ai encore perdu 2-3 kilos de plus par rapport au mois de janvier, là, quand j'ai commencé justement le vélo. J'ai perdu peut-être même 4 ou 5, en fait, hein, grosso modo. Bon, j'avais un petit peu pris de poids avec les fêtes de fin d'année, très classiquement. J'en ai perdu un petit peu, puis j'ai jamais été aussi léger que ça au 21e siècle, en fait. Je le disais en plaisantant, et puis alors ma balance, il m'a annoncé des taux de masse maigre et de masse grasse. Alors, masse grasse très faible et masse maigre très élevée. Donc là, je suis un peu surpris, mais ça fait plusieurs semaines que ça dure. Donc ça veut dire que je me suis bien affiné, mais j'ai un objectif de recomposition corporelle qui était de dire aussi de prendre du muscle, de tailler du muscle, faire apparaître les abdos, avoir un corps plus dessiné, etc. Et donc là, ça fait partie d'un objectif global de santé, mais aussi d'esthétisme, en fait, oui, d'esthétisme perso, en fait, de confiance en moi, de choses dans ce genre-là, et qui va s'accompagner avec aussi un petit peu d'alimentation. J'ai un nouveau sponsor, notamment sur Kilomètre 42, sur mon compte Instagram. Ce sponsor, je peux le dire, c'est NutriPure, et avec lequel on a mis en place une stratégie de certains tests de produits, notamment pour faire plus de protéines, en fait, prendre un peu plus de protéines, prendre un peu plus, alors moi, il y a aussi du collagène par rapport à la souplesse, par rapport à justement mes difficultés, ma hernie, etc., magnésium, vitamines, etc., pour être en pleine forme, mais surtout, en fait, hein, cette histoire de protéines pour prendre un petit peu de aider, en fait, hein, à la récupération. Déjà, ça, c'est un point qui est important avec le volume, aider à la construction du muscle, hein, aider au développement du muscle, et puis prendre aussi un peu de muscle un peu complémentaire. Et donc là, il y a du renforcement musculaire. J'ai ma petite idée pour faire du renforcement musculaire. Je vais pas faire un truc aller en salle de sport ou quoi que ce soit. Je vais plutôt faire, en fait, du fonctionnel, en fait. Alors, quand j'appelle ça du fonctionnel, c'est faire du polyarticulaire, c'est faire du poids de corps, c'est faire des trucs aussi avec les bancs dehors, c'est faire aller sur un terrain de basket et puis balancer un ballon de basket, faire des paniers pour travailler toute la partie haut du corps, donc avec les bras qui vont par-dessus la tête, lancer des choses, etc. Un peu comme voyant CrossFit, hein, quand on lance, il lance des ballons contre le mur. Bon, là, il lance des gros ballons. Là, ce serait un ballon plus léger, mais sur la répétition, en fait, c'est travailler tout le haut du corps avec des rotations, des choses comme ça, mais d'une manière plutôt amusante. L'histoire, c'est de faire un truc plutôt amusant. J'ai pas trop envie de faire des trucs trop ennuyeux. Donc, c'est vraiment avoir cette logique-là. Et puis, j'ai des élastiques, j'ai quelques haltères. J'ai même une roulette à abdos à la maison. Alors, pourquoi pas faire un peu de roulette à abdos? Ça, je sais pas. Je verrai. C'est pas l'outil que je préfère, en fait. C'est vraiment pas l'outil que je préfère. Mais en tout cas, il faut que j'en fasse un petit peu. Il faut que je fasse un petit peu ce renforcement musculaire parce que je pense que c'est important. Et on en a parlé hein, de l'importance aussi de muscler un petit peu, de renforcer un petit peu. On en a parlé avec certains invités. Et puis, je vais me faire aussi un petit peu ma préparation mentale personnelle. Vous savez que je suis certifié en préparation mentale, donc l'avantage, c'est que je peux me m'auto-coacher sur certains éléments. En fait, je me donne des petits exercices. J'avais fait notamment avec des mantras sur la confiance, etc. J'ai commencé à travailler sur des mantras sur la confiance, des mantras pour moi-même, champion du monde de mon monde. Hein. Je sais que je fais les efforts. Pourquoi je fais ça? C'est pour devenir champion du monde de mon monde. Un petit peu de méditation aussi. J'ai décidé de faire un peu de méditation. À une époque, je faisais de la méditation avec Petit Bambou, qui avait des programmes de méditation vraiment dédiés à la course à pied, dédiés au sport, etc. Il y a des trucs qui sont très intéressants. Là, je vais peut-être le faire un peu différemment. J'ai une autre application que j'ai... par le biais de ma mutuelle, en fait. Donc, elle est gratuite par le biais de la mutuelle. Enfin, on la paye par le biais de la mutuelle, on va dire. C'est Mind, l'application. Donc là, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, etc. Mais je peux aller peut-être chercher d'autres éléments, en fait, hein, que je peux trouver sur Internet. Pourquoi pas aussi m'écrire mes petits mantras, les répéter, peut-être me faire des petits audios qui vont me permettre hein, de faire ma préparation mentale personnelle pour me préparer vraiment là-dessus, hein, pour me dire, bah, il y aura peut-être des moments... probablement des moments de coup dur, hein. Je l'ai connu sur le marathon, je l'ai connu dans mon 496 challenge l'an dernier quand j'ai couru 500 km en un seul mois avec des journées où je faisais 30 km et puis je l'ai connu aussi sur mon 24 heures, hein. Les moments où on est à fond, tout feu, tout flamme et puis il y a des moments où c'est le creux. Bon bah là en fait hein, c'est là où la préparation mentale personnelle se rappeler du pourquoi, du grand pourquoi on le fait, un petit peu notre ikigai de sportif. Alors là je vous renvoie à un épisode de Kilomètre 42 que j'avais fait sur l'ikigai du coureur, mais vraiment se rappeler de l'importance de pourquoi on le fait, pourquoi j'ai envie d'être champion du monde de mon monde, comment je le fais, pourquoi je fais ces efforts, etc. Donc tout ça en fait c'est une construction globale. Et puis il y a une dernière partie hein, sur laquelle je dois faire attention, c'est la partie logistique, vraiment la partie logistique. Dans ce que j'appelle la logistique, c'est l'alimentation du jour de la course, tout simplement. De dire, tiens, qu'est-ce que je vais amener? Alors, stratégiquement, j'ai à peu près mes trucs. Je sais que je prendrai des sticks de miel à Pyrone avec lesquels je suis partenaire et avec lequel je fais le podcast Sport et Nutrition. Je prendrai aussi des barres d'amandes, aussi de chez eux. J'ai aussi d'autres barres qui vont arriver et je le dis parce que NutriPure, je sais qu'ils m'en envoient. J'ai aussi un autre sponsor sur le podcast sur Kilomètre 42 qui s'appelle Athlète Nutrition. Donc là aussi, par exemple, il y a des boissons d'effort. Alors, chez les uns et les autres, il faut que je teste un petit peu, de se dire, tiens, il y a la boisson d'effort de l'un, il y a les électrolytes ou je sais pas qui, de chez qui, etc. Donc ça, il y a un espèce de mélange et autres. De voir, justement, en fait, sur des sorties plus longues, de voir quelle est l'alimentation qui me permet d'avancer le mieux, j'ai envie de dire. Et là, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Mathieu Lambert, on avait parlé des glucides. Alors, la volume de glucides que lui donne est très, 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 très important. Ça me semble très compliqué à tenir. On en avait parlé aussi avec Gwénoline, etc. Mais elle avait constaté qu'en mangeant plus, eh ben, ça améliorait beaucoup. J'aime beaucoup en course à pied les sticks de miel à Pyrone. Ça fait 35 grammes à peu près. Hein. Je crois que c'est 35 grammes. Donc c'est pour moi, c'est un très bon point. Mais si je me calais sur ce que disait Mathieu, il faudrait que j'en mange 3 par heure des sticks de miel. Bon, 3 par heure des sticks de miel, je sais pas, ça me semble énorme, énorme, énormissime, ça va me dégoûter. Donc c'est pour ça qu'il y a une variation, je vais faire une variation. Et puis je vais tester aussi la stratégie d'Adeline avec des bonbons dans le sac, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis se dire aussi que c'est l'aventure. Et que dans l'aventure, il peut y avoir des pauses boulangerie, des pauses magasin, etc. Voilà, des petits des éléments comme ça que je teste. Hein, quand j'ai dit que j'ai acheté à Maringue un croissant au chocolat et aux amandes, enfin franchement, ça faisait partie du test de voir justement comment ça passait aussi. Hein, ça fait partie des éléments qui sont importants. Il y a aussi un truc important, c'est de finir de rassembler l'équipement qui est obligatoire, de vérifier la liste de l'équipement obligatoire, de finir de rassembler tout ça. Et puis après, il y aura les briefings. Alors on en a parlé l'autre jour dans l'épisode sur le Gravelman de Gwénoline. On avait parlé justement des briefings, de comment ça se passait. Et ça, c'est une question d'organisation. Hein. On va voir un petit peu comment Sylvain Huaric va parler de ça, etc. Donc là, pour l'instant, je ne maîtrise pas les éléments là-dessus. Ça, voilà, ça fait partie aussi des choses dans lesquelles bah, y a de l'attente hein, de voir comment ça va se passer. En revanche, la liste de l'équipement obligatoire, elle est sur le site du Gravelman. Donc là, j'ai qu'à checker, en fait, de voir ce que j'ai pas, etc. De vérifier, notamment, par exemple, si j'ai la bonne batterie pour le téléphone. Voir si, d'ailleurs, elle est assez compacte et tout, pour se trimballer, voir s'il faut pas la changer, s'il faut prendre une batterie différente, etc. Les bons câbles, toutes les câbleries, enfin, des petits trucs comme ça. Enfin, voilà, des éléments un petit peu de ce type-là. Et puis, il y a un dernier point aussi, c'est de voir l'organisation pour y aller. Parce que le point de départ, donc, sera... Alors, pour l'instant, ça fait... De la maison actuelle, ça fait environ une heure à peu près de route en voiture. Ça fera un peu plus loin une fois que j'aurai déménagé en quelques temps. Mais grosso modo, la question, c'est de savoir si j'y vais le matin même et je me présente le matin même au départ en y allant en voiture ou si je ne ferai pas en fait y aller la veille, par exemple. Et je m'étais même posé la question de me dire, tiens, je pourrais peut-être y aller carrément en vélo. C'est à 50 bornes, hein. Il y aurait 50, voire un peu plus, ça va dépendre d'où je pars. Mais il y aurait 50 bornes, mais je pourrais y aller en faire une partie en train et puis ensuite... faire une partie de trajet train et puis ensuite une partie vélo, pourquoi pas. Ça peut être vraiment un truc à étudier. On avait parlé avec Nathalie Bayon du fait qu'elle revenait de ses aventures en vélo et tout, bah pourquoi pas me dire bah tiens, je pourrais pourquoi pas louer, c'est dans un camping, prendre s'il y a un mobilhome ou je sais pas quoi, dormir là-bas, faire l'aventure et puis rentrer le lendemain. Pourquoi pas ? Ça serait, pourquoi pas, une stratégie qui pourrait s'étudier, qui pourrait se calculer de cette manière-là. C'est un truc que j'envisage très clairement, mais ça, par contre, je dois le planifier, l'organiser, parce que ça demande un petit peu de logistique et tout. Et ça, pour l'instant, cette partie logistique-là, je ne l'ai pas réglée. Donc voilà, grosso modo, où j'en suis, hein, quel est mon plan pour... ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et mon plan maintenant pour la suite, pour préparer en fait ce un mois, hein, je le dis vraiment, hein, l'épisode là, il est diffusé le 13 avril, la course est le 13 mai, donc j'ai un mois pour être prêt. Maintenant, vos questions, parce que vous m'avez posé plein de questions, donc je vais répondre à vos questions. La première question qui m'a été posée, c'est par Iki qui me demande « À quand le tubeless ?» Alors, à quand le tubeless ? Ben, pour l'instant, je n'en sais rien. Comme je l'ai dit, j'ai eu une seule crevaison, et en fait, quand j'en discute à droite à gauche, c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de gens qui plaident pour le tubeless. Pour l'instant, je me tâte, et l'autre jour, je voulais demander chez Tempo, voir un peu ce qu'il en pensait, etc. Je ne l'ai pas fait. Je me tâtais en fait de me dire, j'aurais pu lui faire monter en fait l'adaptation au tubeless. Pourquoi pas me dire bah tiens au moins la faire avec quelqu'un qui s'y connaît en tout cas qui me donne les astuces et puis le bon produit en fait hein, dedans pour justement parce que c'est un des conseils qui m'a été donné aussi c'est de dire bah les certains problèmes qu'on remonte en fait sur le fait que ça colle que après on peut pas mettre de rusting quand on met une chambre que c'est pénible etc viennent aussi des différents produits qu'on met à l'intérieur du pneu donc peut-être que là-dessus aussi il y a une petite variation à faire là-dessus. Bon, en tout cas, pour l'instant, je roule toujours en chambre et j'ai eu une crevaison en 800 km. Donc voilà, enfin, j'en ai eu deux, mais en fait, la deuxième, c'est que j'avais mal collé la rustine. Donc voilà, donc l'un dans l'autre. Pour l'instant, je dis pas que j'ai des crevaisons en pagaille non plus. Donc pour l'instant, j'ai changé une fois la chambre. Donc pour l'instant, je suis encore avec ma chambre. Voilà, avec mes chambres, j'ai pas mis le tubeless. Quand est-ce que je vais le faire, je ne sais pas. Mathieu m'a dit, quel type de sortie programmes-tu pour ta préparation ? Alors, c'est ce que je viens de dire, en fait. L'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir des sorties. Alors, d'une part, il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est que l'idée, c'est pas d'avoir, c'est des sorties plutôt en endurance. Alors, ce que j'appellerais l'endurance mentale. Là, je reprends l'image de la course. Et puis, Mathieu, toi qui fais du trail, tu vois vraiment ce que je veux dire. C'est de dire, en fait, c'est pas de se mettre, de faire de la vitesse, etc. C'est d'abord de cumuler des kilomètres, du temps de selle, etc. Toutefois, ce que je rajoute, ce sont des séances où je fais du dénivelé pur. Et puis, par moment, j'appuie plus fort sur les pédales. Par moment aussi, je fais plus de vélocité. Hein, on avait parlé avec Adeline. C'est-à-dire de tourner les pédales plus rapidement. M'entraîner à tourner les pédales beaucoup plus rapidement aussi. Ça fait partie aussi des éléments sur lesquels je travaille. En fait, et c'est-à-dire qu'en fait, bah, je fais un peu comme en course à pied, c'est-à-dire que grosso modo, je dis, bah, je vais faire une heure en roulant tranquille, et puis à un moment donné, je vais dire, bah, tiens, là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vais bombarder, je vais essayer de rouler plus vite, je vais essayer de surveiller ma fréquence cardiaque. cardiaque, quand je pense à mettre le cardio, où je vais surveiller ma vélocité, je vais regarder que si j'arrive à monter, à tourner les jambes plus vite dans les montées, je vais me prendre une petite montée qui est plus raide et puis je vais voir si j'arrive à la monter mieux. J'ai même travaillé la danseuse, hein. Là c'était un conseil que donnait Adeline, de me mettre en danseuse, de faire par exemple 20 ou 30 secondes de danseuse, me rasseoir, 20-30 secondes de danseuse, me rasseoir, etc. Tout un tas de trucs comme ça que je travaillais un petit peu. Mais vraiment, ce que je dis, c'est que vraiment, c'est de travailler le temps de selle, le fait de, enfin, de travailler, m'entraîner au temps de selle, de rester, de pouvoir pédaler plus, de rouler plus longtemps, etc. Ça, c'est vraiment mon truc. Pas forcément très rapidement, mais d'avoir une moyenne régulière, en fait, j'ai envie de dire. De trouver des zones aussi où il y a du pédalage, du temps de pédalage assez long, c'est-à-dire sortir de la ville et ne pas avoir toujours des arrêts, reprendre, etc. Avoir un petit peu ce temps-là, comme ça. De rajouter de temps en temps des accélérations, des trucs plus compliqués un petit peu. Je le fais alors de manière très intuitive. Par contre, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un point qui est important. C'est comme en course à pied. En course à pied, en fait, j'ai beaucoup de mal à suivre des plans. Je suis capable de me faire un plan de course à pied. En vélo, est-ce que je suis capable de me faire un plan ? Ça, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, l'intuition, le côté intuitif de ce que je fais, c'est de dire, je dois prendre d'abord du plaisir. Je vais d'abord chercher le plaisir. Et en fait, vraiment, mon histoire, c'est de dire, le plaisir, c'est de dire, j'ai envie d'aller à tel endroit. J'ai envie d'aller voir un truc. J'ai envie d'aller voir les volcans. J'ai envie de me prendre un café à tel endroit. J'ai envie de faire ça. Et au milieu, je me dis, je peux allonger la distance. Au lieu de le faire en 20 km, je peux le faire en 40 km. Je peux le faire en allure tranquille ou je peux le faire en allure plus rapide. Je peux le faire sur du chemin ou je peux le faire sur de la route. Il y a des jours, j'ai fait que de la route. Il y a des jours, j'ai fait que du chemin. Il y a des jours, j'ai fait vraiment un mix des deux et tout. Il y a des chemins où des fois, je vois un VTT qui est devant. Je me dis, tiens, je vais le rattraper, ce qui va me permettre de travailler un petit peu façon fartlek, comme en vélo, comme en course à pied en fartlek. C'est-à-dire que on se donne un objectif en disant je roule vite jusqu'à l'arbre et puis ensuite je ralentis, puis faire des fractionnés un petit peu en jouant avec la nature. Et là je l'ai fait en me disant il y avait été plus loin, je vais le rattraper. Là il y a un arbre, je vais le rattraper. Là il y a un petit chemin l'autre jour quand j'étais à la Vichy sur une journée, il y avait un chemin qui montait bien. Alors là par contre je me suis rendu compte que j'avais pas d'accroche sur ma roue arrière parce que le chemin était boueux, il y avait plein d'eau et que le VTT devant moi passait très bien. Mais je me suis dit quand même, je vais m'accrocher au VTT pour essayer de voir comment il passe, essayer de le suivre et tout, même si j'ai moins d'accroche, mais vraiment essayer d'être un petit peu dans sa roue. Bon, j'ai pas tenu jusqu'au bout, mais en fait, c'était un bon exercice. Donc vraiment, je suis vraiment dans ce côté un petit peu jeu, un petit peu intuition, un petit peu de me dire qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie de rouler plus, qu'est-ce qui me donne du plaisir, vraiment pour prendre du plaisir sur le vélo, et comment je peux y rajouter des moments où en fait ça me permet de travailler des éléments dont on a parlé, qui sont de dire rouler un peu plus vite, mettre un peu plus de cadence, prendre des montées, prendre des descentes, enfin voilà, tous ces éléments-là. Je fais vraiment, je gère vraiment de cette manière-là. Ensuite, j'ai eu deux questions sur mon GPS. Alors notamment sur Zaza qui m'a demandé selon quels critères as-tu pris le Brighton Rider 420. Et puis Lulu Biboun qui m'a demandé si ça fonctionnait bien. Alors, le critère que j'ai pris, c'est d'abord un critère de prix. Je dois le dire, je l'avais dit, le vélo, ça coûte cher. C'est un budget qui coûte cher. Là, je n'ai pas fait le total des petits éléments que j'ai achetés, etc. Mais si on rajoute les éléments, déjà, on va dire, il y a peut-être 200 euros de petit matériel en plus, etc. Là, le Brighton, en fait, ce que j'ai fait, en fait, je dois dire, c'est que j'ai regardé des tests, j'ai regardé un petit peu. Au départ, j'avais prévu, au tout début, quand j'ai acheté le vélo, je m'étais posé la question de prendre un vélo qui était un peu moins cher et d'avoir du budget pour acheter un GPS, en me disant qu'en fait, j'avais besoin du GPS, notamment parce que sur le Gravelman, il y a la trace à mettre, à suivre, savoir par où il faut passer, etc. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré mettre plus d'argent sur le vélo, d'avoir un vélo qui était de meilleure qualité, avec des meilleurs composants, etc. Je ne regrette pas du tout ce choix. Je ne le regrette vraiment pas du tout. C'est juste que maintenant, en fait, le calcul que je fais, en fait, c'est de me dire comment je fais pour ne pas faire augmenter trop le prix global de l'aventure, et en donnant un exemple, en fait, en disant est-ce que finalement, un GPS ce tarif-là, sachant que là, je l'ai payé 78 euros. Et en plus, j'ai même mis le paiement en 4 fois sur Amazon. Donc, 78 euros, paiement 4 fois. Il était normalement ce modèle-là, donc ça monte, il y en a 140, 150, il y a différentes options, etc. Il fallait que j'achète la fixation en plus parce que la fixation n'était pas livrée pour le mettre sur l'avant du... En fait, il y avait une fixation, vous savez que les élastiques qu'on pouvait mettre sur en fait, bah, là où j'ai mis mon téléphone, en fait, la fixation de mon téléphone, vraiment sur la potence. Donc là, j'ai pris une fixation pour le mettre plus vers l'avant, voilà, tout simplement plus vers l'avant, donc ça a rajouté une vingtaine d'euros. Mais vraiment, sur le truc, c'est que je trouve que déjà, il trouve très vite les satellites, il n'y a rien à dire. Mon capteur de cadence Magen, là, il l'a trouvé du premier coup, sans aucun problème. La ceinture, il la trouve du premier coup. Il a des petites options qui sont sympas. Alors, qui sont sympas. Par exemple, si je reçois un appel ou un message, il va l'afficher. Il n'est pas tactile. Il est noir et blanc, il n'est pas tactile. Il y a quand même du rétroéclairage. Alors, une fois qu'on a compris le système de boutons, il y a des pages. Il y a quatre boutons. Il y a deux boutons sur en bas, il y a deux boutons derrière. Alors, une fois qu'on a compris le système des boutons, ça marche très bien. Sur le truc, il y a une application sur le téléphone. La synchronisation se fait nickel. Vraiment, elle se fait nickel. Et puis ensuite, une fois que c'est synchronisé, ça part sur Strava en synchronisation. Donc, je peux récupérer les données. Il n'y a aucun problème. Je trouve juste que c'est dommage, c'est qu'elle ne récupère pas dans l'application santé sur le téléphone. Bon, c'est un petit détail. Sur le téléphone, on peut choisir tout simplement comment on fait un tracé. Alors, le tracé, on peut venir de Komoot. C'est-à-dire que dans l'application, on peut dire, dans Komoot, j'ai fait une trace. Je l'importe dans l'application et à partir de là, je la synchronise pour le mettre sur le compteur, le GPS, le Brighton. Là. Dans ce cas-là, on a les options pour mettre du suivi virage par virage. On peut personnaliser les écrans pour demander du virage par virage, chaque direction, comment ça fait et tout. Et puis avec la carte. Alors la carte, c'est moins beau que beaucoup de GPS, etc. Il faut que je m'entraîne à rouler en suivant une trace que j'aurais déterminée pour être bien dessus, pour bien me repérer quand est-ce qu'il faut tourner, les virages, etc., pour avoir le bon affichage. Ça, pour l'instant, je suis pas, j'ai pas beaucoup fait parce que c'est vrai que je suis dans des zones pour l'instant où je connais assez bien. Et puis les fois où je me suis éloigné, je l'avais pas encore. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je trouve qu'il marche bien. L'autonomie, elle est très bonne. Soyons honnêtes. Je l'ai branché, je l'ai chargé une fois. Il met une petite alerte comme ça, il m'a mis une alerte en disant ah, de toute façon, il y a bientôt plus de batterie, mais franchement, ça marche du premier coup. Dès qu'on commence à rouler, il rappelle qu'il faut mettre en démarrer. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton. Les systèmes de boutons, on pourra dire oui, c'est dommage, c'est pas tactile, etc. Mais une fois qu'on a compris qu'on met les doigts où est-ce qu'il faut appuyer, ça marche vraiment super bien. Je trouve que pour le tarif, j'avais pas envie d'avoir de mettre 300, 400, 500 euros sur un compteur GPS et quoi que ce soit. Il est très simple, mais je trouve qu'il marche vraiment très bien. C'est Julien Rabier qui a fait une vidéo sur le sujet aussi sur sa chaîne YouTube. Donc je regarderai si je retrouve le lien pour vous le mettre. Mais franchement, pour moi, je trouve que ça me suffit largement. Pour l'instant, ça me suffit largement. J'ai eu aussi un invité de Kilomètre 42 qui en avait un aussi. Je lui ai demandé un peu ce qu'il en pensait. Il m'a dit qu'il était très content aussi. Voilà, pour l'instant, moi, ça me va super bien. Rien à dire sur le fonctionnement. Je trouve que ça marche bien. Il y a des options différentes. Vous pouvez l'acheter avec la ceinture thoracique, avec le capteur de cadence aussi qui peut être livré. Ça peut remonter le capteur de puissance si vous en avez un. On peut personnaliser tous les écrans, dire je vais afficher ça, je vais afficher ça et tout. J'avais vu qu'il y a des traductions qui n'étaient pas terribles, mais je ne trouve pas ça si mal que ça. En plus, j'ai une mise à jour qui a été faite. Peut-être que c'est ce qui améliore aussi les trucs. Moi, l'écran, alors il y a un écran, je me suis totalement foiré sur la personnalisation. Je me dis, mais à quoi il sert cet écran? Mais bon, ça change par l'application. Le truc le plus compliqué que j'ai trouvé, c'est de mettre la date, le mettre à l'heure d'été. Il ne s'est pas mis à l'heure d'été tout seul. J'ai fait deux sorties où l'heure d'été n'était pas bonne. Mais une fois que c'était synchronisé après sur l'application, sur Strava et tout, c'était bien la bonne heure. C'est juste que sur le compteur en lui-même, il n'affichait pas la bonne heure. Bon, voilà, c'est la surprise. Tout s'était mis à l'heure, sauf ça. Voilà, donc j'en pense du bien, franchement j'en pense du bien, et si vous voulez le voir, je vous mets un lien bien sûr dans les notes de l'épisode et sur mon site. Autre question qui m'était posée par Lunac, faut-il faire du gainage pour être en position optimale sur le vélo? Alors là je renvoie en fait à les épisodes qu'on a fait, notamment sur l'épisode avec Thomas Piednoir, donc l'épisode de la semaine dernière, avec Adeline il y a deux épisodes avant, qui eux sont kinés, posture, etc., enfin voilà, tout ça ils connaissent bien. Oui, moi je considère qu'il faut faire du gainage. On avait parlé de la position. On avait dit que selon les positions sur le vélo, ça change un petit peu les positions. Il y a des positions qui sont plus ou moins dures à tenir. Il y a des positions notamment aussi qui vont mettre plus en avant les cervicales. On avait dit qu'il y a des problèmes de cervicales, il y a des problèmes aussi de dos, il y a des problèmes de puissance, etc. Tenue du casque aussi, le poids du casque, le poids, tout un tas d'éléments. Avec Camille Pic, on avait parlé aussi de dire bah, c'était pas mal de faire du yoga, de renforcer un petit peu, etc. Voilà, moi j'emmagasine tous les éléments. Je pense, franchement, que le gainage ne fait vraiment pas de mal. D'ailleurs, c'est pour ça, je l'avais dit dans le reste de l'épisode, que je vais mettre du gainage à mon programme. Gainage, musculation, le but du jeu n'est pas de prendre du volume énorme, mais vraiment de prendre du renforcement, d'être capable de tenir la position, d'être bien installé, d'être bien confortable, etc. Et de ne pas avoir aussi ces douleurs qui pourraient intervenir, parce que il y a la position de la tête, il y a le poids du casque avec les lunettes, il peut y avoir la frontale qui va rajouter du poids. Donc tous ces éléments là, bah, il faut quand même avoir un petit peu de gainage, un petit peu de force et tout, dans tous les muscles qui vont permettre de tenir ça, de tenir la position, d'être bien à l'aise, etc. Parce que si on commence à être faible, c'est comme en course à pied, hein. Si on commence à être faible, en fait, après, on n'a pas la bonne position, on n'est pas bien, et puis on n'est pas confortable. Et c'est là que ça pose d'autres problèmes, où on commence un petit peu à devenir moins bien, moins prendre moins de plaisir, moins être optimal, etc. Donc oui, Lunac, pour moi, et je dis le gainage, pour moi, est une bonne idée. Moi, je suis vraiment... Alors, il y a le gainage statique et dynamique. Moi, je vais plutôt faire du dynamique. Hein, j'avais dit, je suis plutôt dans le truc... j'ai fait pendant des années, j'ai fait de la planche tous les jours, etc. J'ai fait ça, oui, en faire 30 secondes, une minute, etc. Oui, mais l'idée plutôt, c'est d'avoir vraiment pour moi... j'aime bien faire la marche de l'ours, c'est-à-dire marcher à quatre pattes sans poser les genoux. J'aime bien faire des fentes, j'aime bien faire des squats, j'aime bien même courir à l'envers et tout. Alors, c'est pas une forme de gainage, mais c'est une forme de renforcement des jambes. Donc, il y a plein d'exercices qu'on peut faire et qui sont autrement plus sympas que de juste faire la planche pendant une minute sur un tapis. Alexandra m'avait posé une question sur la sécurité, comment assurer ma sécurité. Ben, ça fait partie d'ailleurs des achats que je dois faire pour les nuits notamment, c'est d'avoir un gilet réfléchissant. Alors en fait j'en ai un, et j'en ai même un quand je faisais du fixie, j'en avais acheté un pour mettre sur mon sac à dos. Donc j'en ai un si j'avais un sac à dos, genre un sac avec pour mettre dedans une poche à eau. C'est une solution que j'ai vue, hein, que certains ont une poche à eau et la mettent dedans comme ça. Je pense pas partir sur une poche à eau en fait pour la course. C'est pour ça que j'ai mis des porte-bidons. Je pense pas partir sur une poche à eau, donc je n'aurais peut-être pas besoin de ça. Mais par contre, oui, un gilet réfléchissant pour la nuit et tout, quand ça va tomber. Et puis après, bien sûr, sur le Gravelman, il y a le suivi GPS, hein, il y a les balises qui sont fournies par l'organisation. Donc la sécurité, elle est aussi là-dedans. Mais c'est vrai que sur le vélo, j'ai de l'éclairage à l'avant, j'ai l'éclairage à l'arrière. Je vais mettre aussi la frontale pour sortir le soir et tout. Je pars toujours avec mon téléphone. Voilà, ça fait partie aussi des éléments. Je pars toujours avec mon téléphone. S'il y a un problème, je suis capable d'appeler. Et puis, il y a un autre truc aussi que j'ai que je gère aussi, c'est le lien à la vitesse et le lien aussi sur les routes que je prends. La vitesse, bah, y a des endroits où moi, je n'hésite pas à ralentir. En fait, hein, je me dis, bah, tant pis, je prends le chemin moins rapidement, je fais plus attention, etc., où je vais poser mes roues. Et puis, il y a des routes, j'évite les grandes routes. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je fais du gravel aussi, hein, c'est d'éviter les grandes routes. C'est plutôt prendre les petites routes, les petits chemins, passer des petites routes aux petits chemins, etc. Et éviter les grandes routes au maximum, parce que la différence de vitesse est vraiment problématique. Alors, il y a des endroits où il y a des superbes routes, et franchement, il y a des trucs avec des pistes et tout. L'autre jour, j'ai été invité sur un podcast, alors qui est pas loin, hein, c'était à 15 bornes en vélo, donc j'y suis allé, j'ai fait 15 bornes aller, 15 bornes de retour. J'avais quasiment 100% de pistes cyclables tout le long, avec pistes cyclables même séparées sur plein d'endroits, avec des barrières, avec des trucs marqués, et puis même des endroits où en fait il n'y a vraiment pas du tout de passage de voiture, c'est-à-dire que c'est carrément, il n'y a pas de voiture du tout. Donc c'est vraiment très agréable quand c'est comme ça. Et puis dans la zone de Vichy, quand je suis allé rouler dans la zone de Vichy aussi, il y a des voies vertes qui sont magnifiques avec des boucles. Alors par exemple, j'ai fait l'autre jour la boucle de Saint-Yor, il y a 20 km où c'est vraiment de la voie au milieu des chemins, au milieu de la nature et tout. Il y a un petit bout de route à un moment donné, voilà, parce que il y avait des travaux, donc ça m'a remis sur la route. Mais sinon, c'est des zones où il n'y a pas de route, où on est vraiment dans des zones en sécurité. Et là, vraiment, c'est ce que je vais privilégier vraiment dans mon histoire. C'est aussi pour ça que quand je regarde ma trace, par exemple, pour aller à certains endroits, j'étais un peu... Il y a une voie, par exemple, qui descend, qui est censée descendre, genre Nevers jusqu'à la mer et qui passe par la maison, qui traverse tout l'Allier, qui va traverser le Puy-de-Dôme et qui va descendre vers le sud. Pour l'instant, en fait, elle n'est pas séparée. C'est-à-dire qu'elle est marquée, elle est tracée sur les cartes, mais il y a très peu d'endroits où elle est séparée. Mais les endroits dont je parlais tout à l'heure pour le fameux podcast, etc., font partie des endroits où elle est totalement séparée. Et les endroits où c'est pas séparé de la circulation. Et il y a un endroit notamment où ça prend une grande route. Et c'est là où je me suis rendu compte. Komoot me l'a pas indiqué. Mais il y avait en fait une grande piste de terre sur le côté que je pouvais prendre et qui était là totalement à l'abri. Donc c'est un petit peu là-dessus que je vais jouer aussi par rapport à la sécurité, par rapport à la trace, par rapport au repérage des traces, etc. Et puis la dernière question qui m'était posée, c'est Xavito. Alors tu prends goût au vélo, tu as pris goût au vélo, ça y est, tu es accro. Eh ben oui, je prends goût au vélo. Alors c'est sûr que le début, mes premiers kilomètres étaient un peu galères parce que j'avais perdu l'habitude de faire du vélo, parce que la dimension de mon vélo, c'est pas la même taille de roue, hein. Mes roues sont plus grandes que sur mon fixie, le vélo est plus large, le guidon est plus large, j'avais un cintre plat, là je suis avec un, enfin j'ai le cintre, je peux courber là comme sur un vélo de route, donc les positions des mains sont pas pareilles, sur le fixie j'avais pas de vitesse, après je suis passé en vitesse automatique, mais j'avais pas le changement de vitesse et tout, là il fallait que je me fasse aux vitesses, je savais même pas d'ailleurs l'autre jour... Vous allez me prendre pour un fou. L'autre jour, quand je suis allé acheter pour le truc pour réparer ma chaîne si jamais il y avait une casse, le vendeur m'a dit, mais vous avez combien de vitesse sur votre vélo? Et je lui dis, bah, je crois que j'en ai 8. Et il m'a dit, sur ce modèle-là, j'ai un doute. Et en fait, on a regardé, j'en avais 11. Ouais, j'ai 11 pignons sur les plateaux. Enfin voilà. Donc sur le coup, je me dis bon bah voilà, je me suis trompé en fait hein, sur mon histoire. Donc c'est à dire que alors, pourtant des fois j'ai l'impression que je dis mais j'en manque. En fait non, j'en manque pas. Mais en fait il y a un truc d'ailleurs qui est drôle, c'est que j'ai deux plateaux et donc à l'arrière j'ai les 11 pignons là. Mais en fait, j'ai pas. Des fois, en fait, je me rends compte que j'ai une tendance à pas faire attention et je fais un peu trop de tension sur la chaîne en changeant pas de plateau au bon moment, en changeant pas les vitesses au bon moment. Voilà, il y a des trucs encore sur lesquels je suis pas encore super au point. Hein, je manque vraiment encore d'entraînement là-dessus. Mais par contre, j'ai beaucoup progressé, je prends beaucoup plus de plaisir, je roule beaucoup plus vite aussi. Il y a plein d'endroits où je roule beaucoup plus vite. Hein. Alors c'est marrant parce que il y a beaucoup beaucoup de sorties où finalement je dépasse mes vitesses et où ou surtout les petites médailles sur Strava, les records, les sur les segments, je les bats tous de semaine en semaine. Et puis c'est grisant parce qu'à un moment donné, un jour, vent dans le dos, j'étais à 50 km/h. Bon, après au retour, je me suis retrouvé à 13. Hein, donc là, ça m'a un petit peu calmé. Mais en fait, il y a plein d'endroits où je peux rouler plus vite. Je me suis surpris l'autre jour sur un chemin. J'ai dit tiens, je suis à 30 à l'heure sur ce chemin, ça rebondissait dans tous les sens. Mais c'était un peu grisant. Voilà. Et c'est vrai, Xavier, toi, on avait parlé dans certains épisodes. C'est le côté un peu grisant, c'est le côté liberté, c'est le côté amusant. J'en ai parlé aussi l'autre jour à quelqu'un que j'ai en coaching qui me disait ouais, pour moi, le vélo, c'est aussi ça, c'est ce côté-là, c'est un petit peu ça. On a parlé de l'enfant intérieur aussi qu'on ranime un petit peu, hein, qu'on dit bah tiens, ça nous rappelle un petit peu cet esprit de liberté, et je trouve c'est grisant. Et puis il y a des endroits, quand il y a des petits chemins, des petits, ce que j'appellerais un single, hein, comme en trail, où il y a des petits virages et on peut appuyer un petit peu, je trouve que c'est vraiment super grisant. Alors est-ce que je suis accro? Je suis accro en fait à une forme de capacité en fait à aller plus loin, aller dans des nouvelles zones, etc. Je trouve que forcément ça augmente le temps d'entraînement, voilà, parce que des fois je faisais des sorties de cours, je fais une demi-heure, une heure, là bah, rapidement c'est une heure, deux heures, donc ça double très rapidement le temps nécessaire, etc. Il y a plus de mécanique à faire, il y a plus de petits trucs à vérifier, pression des pneus, enfin voilà, graisser la chaîne, faire effiler les freins, réparer mes rustines, des trucs comme ça, mais... Sur le plan global, ça c'est sur les petits détails, mais je trouve que effectivement c'est assez grisant, c'est de dire bah tiens, je suis capable d'aller de faire des distances. Et puis surtout je me dis là, je dans ma préparation, mais je vous en parlerai plus tard, mais j'ai commencé à l'aborder, c'est de dire qu'en fait dans la préparation, par exemple, pour passer après au-dessus du half gravelman au gravelman, j'ai prévu des sorties qui pourront m'amener mais carrément assez loin. Mais quand je dis assez loin, là on s'approche du bikepacking. Et c'est ça aussi je voulais dire, c'est que dans ma préparation j'ai failli, alors je l'ai pas fait parce que des questions de timing, des questions de plan, etc., j'ai failli placer une petite aventure bikepacking en me disant je pourrais aller à une destination et cette destination faisait exactement la distance d'un gravelman. Et j'avais dit, je pourrais la faire en 2 ou 3 jours, en fait, tout simplement, en m'arrêtant dans un Airbnb ou un hôtel. J'ai mis une discussion sur Instagram en disant, c'est quoi vos astuces et tout, comment vous gérez ça. Et je m'étais posé la question de me dire, est-ce que je pourrais pas placer là, dans les jours qui viennent, ça aurait pu être cette semaine, ça aurait pu être la semaine prochaine, de placer en fait une sortie, une petite aventure vélo sur 2-3 jours qui m'aurait permis de faire 300 km en fait en 2-3 jours avec une nuit dans un Airbnb, dans un hôtel, aller assez loin puis revenir avec une boucle comme ça. C'est un nouveau truc. C'est un truc que j'envisageais pas du tout en course à pied mais que je peux commencer à envisager en vélo et sur le mois de fin mai, autour de fin mai je pense, j'ai pas la date exactement, je peux vous garantir qu'il y aura ça, il y aura cet événement là il y aura ça sur une petite aventure sur 2-3 jours avec un jour 150-160 km de vélo pour aller à une destination et puis ensuite il y en aura un peu moins et puis ensuite le retour 2-3 jours plus tard avec vraiment cette formule là un petit peu aventurière etc, voilà, que j'ai envie de tester aussi. Et ça c'est une nouveauté qui m'arrive sur le vélo, c'est à dire que j'avais dit, je recherche un peu la micro-aventure, chercher des petits chemins, des trucs un petit peu différents, etc. Et je vois que le vélo me permet d'aller justement vers ça. Alors après, est-ce que je vais allonger les distances? Est-ce que je vais vraiment faire du bikepacking? Est-ce que je vais faire des trucs un petit peu différemment? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien pour l'instant. C'est trop tôt pour le dire. Là, pour l'instant, je suis vraiment focalisé. Je dis dans un mois, mon objectif, c'est vraiment le Gravelman Auvergne, donc sur la trace Gravel 120 km. Après, l'autre objectif, ça sera le Paris-Deauville, qui sera pour moi le grand Gravelman, celui que je vise, qui est dans ce projet-là, vraiment dans le projet. Et après, on verra. Après, on verra. Tout est ouvert, vraiment tout est ouvert. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je ne vais pas m'arrêter, en fait, après le Gravelman, qu'entre le Half et le Gravel, j'ai envie d'avoir des petites aventures en vélo, j'ai envie de profiter de l'été aussi, des vacances, pour faire des petites aventures en vélo. J'ai peut-être une idée, en fait, tout simplement, d'aller à certains endroits. Certains d'entre vous m'avaient proposé des petits trucs aussi, genre aller au Canal du Midi, faire des sorties de ce type-là. Pourquoi pas? Voilà, c'est ouvert. C'est partie des choses que j'envisage, que j'imagine, que j'ai en tête. Est-ce que c'est ça être accro, Xavito? J'en sais rien. Mais peut-être. Voilà, peut-être. Écoutez, sur ce, cet épisode se termine. Donc, vous savez exactement mon programme, vous savez d'où je viens, où je vais. Je vous rappelle, moi, je suis un vrai débutant en vélo, j'apprends au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos conseils, n'hésitez pas à m'envoyer vos astuces. N'hésitez pas aussi à me dire des noms d'invités, des personnes que je pourrais inviter pour les prochains épisodes, justement pour continuer la préparation, pour continuer ma découverte de tout ça. C'est en fait une manière d'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est mon stage de préparation, j'ai envie de dire, mais mon apprentissage accéléré. J'appelle le podcast mon université personnelle, en fait. C'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses en course à pied, kilomètre 42, énormément de choses en nutrition, expert en nutrition. J'apprends énormément de choses en vélo grâce aux invités que j'ai eus. L'épisode de la semaine dernière avec Thomas Piednoir sur la posture me fait réfléchir à beaucoup de choses. Et je sais, parce que j'ai reçu des messages de votre part disant que vous avez été super heureux d'avoir en fait tous ces retours-là, parce que c'était des questions que vous posiez vous aussi. Donc n'hésitez pas à me remonter vos questions, n'hésitez pas à me dire en fait quelles sont aussi vos difficultés que vous voyez, n'hésitez pas à me donner vos conseils, n'hésitez pas à me donner les idées d'invités. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et puis roulez bien. Ciao ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.